Ce matin, je vais essayer de vous montrer que Dieu
nous aime d'un amour incompréhensible
et viscéral, encore plus qu'une mère peut aimer son enfant. Hein, d'où ce terme en hébreu, quoi, de Rahamim. C'est le même mot qui désigne les entrailles de la femme. Donc c'est ça, c'est Dieu un amour incompréhensible pour nous, viscéral. Il se suffit à lui-même, mais il a créé le monde par amour. Et par miséricorde, il nous a voulu pour nous faire partager sa propre vie. Il a voulu tous les hommes, mais par ce qui est décrit de façon imagée dans le livre de la Genèse, l'homme s'est séparé de Dieu. Et donc ce qui est important, c'est que l'homme était image et ressemblance de Dieu, et il veut nous redonner cette image et cette ressemblance par le Christ. Nous avons été éduqués comme ça. Nous avons été éduqués par le fait qu'on se dit souvent, eh bien, on arrive au ciel par nos propres efforts. Et Dieu est là et nous attend au tournant, si on y arrive ou si on n'y arrive pas, quoi. Mais ainsi sont les choses, c'est que personne n'y arrive. Donc, voyez, si on y arrivait par nos propres efforts, d'abord. Je vois, c'est une parole qui est au Carmel de Saint Jean de la Croix. Qu'est-ce que le ciel? On n'en sait rien. Et alors, il a cette réponse. Pour aller où tu ne sais pas, ben, il faut passer par où tu ne sais pas. Et donc, se laisser guider par quelqu'un qui sait. Donc, un seul le sait. C'est le Christ. Et donc, le Christ seul peut nous guider pour aller au ciel. Et il nous ouvre la voie du ciel en nous redonnant la condition divine que nous nous trouvons dans l'Église par les sacrements, et le premier sacrement qui nous regreffe sur le milieu divin, le baptême. Mais comme disaient des anciens, de façon provocatrice, la conversion est plus grande que le baptême. Si on reçoit le baptême et qu'on n'en fait rien, ça ne sert strictement à rien. Et donc, le Seigneur nous accorde cette grâce sacramentelle, et il ne peut nous faire miséricorde que si nous sommes accueillants, si nous nous laissons instruire par lui. J'avais dû en parler de ces choses-là dans les autres pèlerinages. Un gamin qui va à l'école, s'il a trop de ressorts sous les fesses, il ne peut rien apprendre. Et c'est pareil pour nous par rapport au Christ. Comme disait Élisabeth de la Trinité, « Je veux me faire instructible afin d'apprendre tout de vous. » Donc, cet amour viscéral que Dieu a pour nous, et qui veut nous sauver, il ne peut pas le faire contre notre gré. Et je vous dis, nous avons reçu une éducation dans laquelle, voilà, c'est nous qui arrivons par nos propres efforts, mais on ne sait pas où aller. Donc, vous voyez, tout ceci, parce que ce sont des expériences que nous avons vécues, ce sont des fausses pistes. Et les saints ne sont pas plus doués que nous, parfois beaucoup moins que nous, mais seulement ils ont compris qu'ils devaient se laisser prendre par le Christ. Et c'est la parole même du Christ, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc si nous nous laissons aimer par le Christ, il peut nous accorder ce pardon et nous réhabiliter complètement dans la vie divine. Si nous avons donc l'humilité de nous laisser prendre par lui, la petitesse de nous prendre par lui, la simplicité de nous prendre par lui, à ce moment-là, il peut réaliser des choses merveilleuses en nous. Et la majorité des saints ne vous enseigneront pas autre chose que ces voies de petitesse, de simplicité, d'abandon, de confiance. Vous voyez, ce n'est pas des mots très compliqués. Nous les connaissons. Sinon, admettons que nous puissions y arriver sans lui. C'est absurde, hein, je vous dis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on y va sans lui, on ne peut pas le connaître non plus. Tandis que si nous nous laissons instruire par lui, si nous nous laissons consoler par lui, si nous nous laissons enlever nos péchés, eh bien, nous sommes dans une relation de proximité, bien plus d'intimité avec lui, et nous, par la même occasion, nous en faisons la connaissance en profondeur. Il devient notre ami, il devient notre confident, il devient notre appui. En Dieu seul, mon appui, mon secours vient de lui. Dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, par exemple. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans le Nouveau Testament. Et là, vous voyez, j'avais trouvé, je ne sais pas où, ça date du 4e, 5e siècle, un des premiers moines, Cassien, qui a été instruit par les moines du désert d'Égypte, et qui ensuite est arrivé en France, à Marseille. Et dans les conférences de Cassien, il dit « Ce ne sont pas tant nos efforts qui triomphent que la miséricorde et la grâce du Seigneur. » Voilà, alors, dans l'école du Carmel, les deux figures de proue de cette voie de confiance et de petitesse qui permet au Seigneur de s'imprimer en nous, qui lui ouvre la porte pour qu'il fasse miséricorde, et qui nous conforme à ce qu'il est, bien c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Élisabeth de la Trinité. Alors je vous lis un passage d'Élisabeth de la Trinité dans le... J'avais dû vous le dire, elle n'a écrit que l'année de sa mort, parce qu'on lui a demandé. Et donc ça veut dire l'année de sa mort, c'est l'année de sa maturité, quoi. Hein, c'est, il y a quelques mois à vivre encore, simplement, avant de... que la maladie bronzée d'Addison ait fait ses effets. Alors elle dit, « Demeurez en moi, c'est le Christ qui parle, hein, demeurez en moi, priez en moi, adorez en moi, aimez en moi, souffrez en moi, travaillez et agissez en moi, nous dit le Christ. Demeurez en moi pour vous présenter à toute personne ou à toute chose. Pénétrez toujours plus avant en cette profondeur. C'est bien là vraiment la solitude où Dieu veut attirer l'âme pour lui parler, comme le chantait le prophète. Mais pour entendre cette parole toute mystérieuse, il ne faut pas s'arrêter, pour ainsi dire, à la surface. Il faut entrer toujours plus en l'être divin par le recueillement. « Je poursuis ma course, » s'écriait saint Paul. « Ainsi nous devons descendre chaque jour dans ce sentier de l'abîme qui est Dieu. » Voyez-vous, par la simplicité, par... le temps que vous passerez avec lui, en n'essayant pas d'analyser ce qui se passe. Parce que si vous analysez ce qui se passe, vous vous récupérez vous-même et vous lui laissez plus de place. Mais justement, par cette simplicité, cet abandon, cette confiance, à ce moment-là, il peut agir. À ce moment-là, il vous transforme. Laissons-nous glisser sur cette pente dans une confiance toute pleine d'amour. Un abîme appelle un autre abîme. Vous voyez où se situe la miséricorde. C'est là tout au fond que se fera le choc divin, que l'abîme de notre néant, de notre misère, se trouvera en tête à tête avec l'abîme de la miséricorde, de l'immensité du tout de Dieu. Et ce ne sont pas tant nos efforts à monter, qui sont inutiles, puisque ben, nous avons nos limites et que psychologiquement, à un moment ou à un autre, on va craquer, que le fait d'accepter de descendre, de n'être rien. Et c'est ce qui plaît à Dieu, et il nous attend, là, elle nous dit. Hein. L'abîme de notre péché, de notre misère, attire l'abîme de sa miséricorde. Elle a piqué ça dans le psaume 41e, verset 6 ou 7, 8, par là. L'abîme appelant l'abîme à la voix de ta cataracte, la masse de tes vagues et de tes flots a passé sur moi. Laissez-vous engloutir en Dieu. Et là, on atteint vraiment aussi le cœur de la prière. Là aussi, nous nous faisons tout un speech. Sur la prière, c'est quelque chose de très compliqué. Non, c'est une relation avec une personne. Donc, plus, ça sera difficile au début, mais plus nous nous laissons abandonner, plus nous nous abandonnons, plus nous nous offrons à lui dans la simplicité, plus notre vie aussi va se simplifier et nous trouverons ben, cet abîme d'amour. Donc, voyez, l'abîme de notre misère, de nos péchés, attire l'abîme de sa miséricorde. Et nous, nous nous obstinons à être bien. Alors, une remarque. À quoi sert la volonté? Ce n'est pas la volonté de faire par nous-mêmes, c'est la volonté de se laisser faire par Dieu. De descendre dans la simplicité pour que nous le rencontrions. Et c'est là, bon, lui, il nous attend. Mais comme on le voyait ce matin, il ne peut rien faire si nous ne nous offrons pas à lui. Si on s'offre à lui, à ce moment-là, ben, il va se précipiter pour nous faire découvrir cette tendresse infinie de Dieu. C'est là que nous trouverons la force de mourir à nous-mêmes, voyez, si nous nous laissons tomber en lui, si nous avons cette confiance. Parce que, voilà, un des problèmes du péché originel, c'est l'amour de nous-mêmes. Or, on peut s'aimer en positif, je suis le plus beau, je suis le meilleur, personne ne peut m'égaler, et puis il y a l'amour de nous-mêmes à l'envers, mais c'est le même. Je suis le plus nul, Dieu ne peut pas m'aimer tel que je suis rien du tout. Bon, je ne vais pas dire des mots grossiers ici, mais voyez-vous, mais c'est dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours l'amour du moi. C'est le moi qui fait obstacle, dans un cas qui s'admire et dans l'autre cas qui se rejette. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'est jamais ouvert, vous voyez, sans se poser de questions à l'action de Dieu. Et parfois, il faut que dans une vie d'homme, une personne descende vraiment très bas pour qu'elle n'ait plus aucun recours que celui de s'abandonner à Dieu et de dire voilà, voilà ce que je suis, c'est minable, mais c'est bon, je te fais confiance. Et c'est comme ça que de grands pécheurs peuvent devenir de très grands saints, et non pas une personne qui, à la force du poignet, essaye d'atteindre la sainteté. Ou du moins qui... Voyez-vous, il nous demande d'être saints, mais la sainteté, Dieu saint, toute sainteté vient de toi. Ben, je prendrai demain la prière eucharistique numéro 2, et c'est ce qu'on dit dans la prière eucharistique numéro 2. La sainteté ne vient pas de moi, d'abord, on ne sait pas ce que c'est que la sainteté. La sainteté, c'est Dieu. Et pour aller où tu ne sais pas, il faut passer par où tu ne sais pas, mais pour être saint, il faut accepter que le seul saint te donne sa propre sainteté. Et ça simplifie, vous voyez, considérablement notre vie, parce que les personnes qui veulent être saintes par leur propre force, etc., ça finit par devenir des caricatures insupportables. C'est des gens qu'on a envie de baffer. Ça devient des caricatures, c'est insupportable. Alors ça peut atteindre à des choses, à des pieuseries, des tas de trucs comme ça, où la personne, pour finir, ne va pas vers Dieu, mais elle est enfermée dans tout un tas de micmacs qui n'a rien à voir. La sainteté de Dieu, c'est Dieu, donc ça nous libère, ça fait éclater notre vie, même si on est paralysé. On a découvert qu'il y avait quelqu'un qui nous aime, qui nous aime à la folie, qui veut notre bien, qui veut nous faire partager sa vie. Le thème donc de cet après-midi, c'est nous mettre en disposition pour recevoir cet amour qui nous transforme en lui-même. Donc c'est cela, la miséricorde. Et moins nous résistons à son attraction, plus il peut, comme dit Elisabeth, c'est là que nous trouverons, si on s'abandonne, la force de mourir à nous-mêmes, et que perdant notre propre tas, nous serons changés en amour. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Voilà, c'est dans le ciel, dans la foi, de ces derniers écrits, premiers et derniers écrits. Donc il nous faut mourir tous les jours à nous-mêmes. C'est dans la première aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 31, quotidien morior, je meurs chaque jour, nous dit Paul. Donc ça veut dire que c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'un saint, un grand saint comme Paul, a eu à combattre contre lui-même, à mourir à lui-même, pour laisser la place au Christ. Et c'est là, pour reprendre ce que je vous disais à l'instant, que se situe la volonté. C'est la volonté de le laisser agir en nous. Il faut que nous apprenions dans la simplicité à accueillir ce don de Dieu. Je vous dis, le début est complexe parce que nous sommes complexes, mais petit à petit, ça va se simplifier et nous découvrons cet amour. Ce que je vous disais aussi, je l'ai renoté de façon différente là, si l'on nous voulons faire par nous-mêmes, nous faisons seuls. Et donc, nous ne pouvons pas être intimes du Christ. Nous ne le rencontrons pas, c'est ce qu'on fait tout seul. Mais si on se laisse prendre par lui, nous ne sommes jamais seuls, et je vous dis, ça devient l'ami intime. Et entre parenthèses, c'est quelque chose que peuvent comprendre des tout-petits, des enfants. C'est pas quelque chose d'intello. Jésus peut très facilement, chez un enfant de 2-3 ans déjà, devenir un ami intime. Et c'est un beau cadeau que vous pouvez faire aux petits-enfants, de leur les aider à découvrir cette présence intérieure. En poursuivant dans le ciel dans la foi chez Elisabeth, elle dit « quotidien morior », elle reprend donc saint Paul, « je meurs chaque jour, je diminue, je me renonce plus chaque jour, afin qu'en moi le Christ grandisse et soit exalté. Je réside toute petite au fond de ma pauvreté. Je vois, attendez, c'est intéressant, mon néant, ma misère, mon impuissance, je m'aperçois incapable de progrès. » Elle va être canonisée cet hiver, Elle est béate. Je me vois incapable de progrès.
Bon, vous voyez, ça nous concerne, ça, on est tout pareil. Je vous disais, on emprunte des voies qui sont fausses parce qu'on veut atteindre une sorte de perfectionnisme par nous-mêmes, je vous dis. À plus ou moins brève échéance, suivant nos tempéraments, ça finit par craquer. Je me vois incapable de progrès, de persévérance. Je vois la multitude de mes négligences, de mes défauts. Je m'apparais dans mon indigence. Je me prosterne dans ma misère, reconnaissant ma détresse. Je l'étale devant la miséricorde de mon maître. Quotidier Morior, je mets la joie de mon âme, ceci quant à la volonté et non quant à la sensibilité, dans tout ce qui peut m'immoler. Voilà où se situe la volonté. Tout ce qui peut faire mourir ce moi. Et c'est exactement l'évangile de ce matin. Il dit ce moi qui nous fait prendre de l'embonpoint, par lequel on ne peut pas passer par la porte étroite. Me détruire, m'abaisser, car je veux faire la place à mon maître. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Donc elle a piqué, dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne veux plus vivre ma propre vie, mais être transformé en Jésus-Christ, afin que ma vie soit plus divine qu'humaine. Participant de la nature divine, 2 Pierre 1:5, que nous citions ce matin. Et que le Père, en se penchant sur moi, puisse reconnaître l'image du Fils bien-aimé. Voyez, restitution de l'image. En qui il a mis toutes ses complaisances. Voilà le plus dur dans notre vie. C'est accepter de se renoncer. Mais je pense que la vie de relation à Dieu, ce que nous appelons la prière, la vie de relation au Christ, nous aide petit à petit. C'est lui qui va, sans moi vous ne pourrez rien faire, c'est lui qui va nous présenter les choses qui nous font mourir. Bon, il y a des choses qui, par exemple, il faut réformer dans notre vie, ça ne va pas du tout. Ben, il se débrouillera pour nous en débarrasser. Ce qu'on doit garder, il le gardera. Et voyez, et ainsi revenant. Et nous apprenons aussi une autre vertu, c'est l'obéissance par là. Cette obéissance intérieure à ce qu'il nous demande, et à travers le très concret du quotidien. Et ainsi, petit à petit, voilà, tout ce qui est enlevé, dans le fond, est remplacé par lui. Et vous voyez que même chez saint Paul, ce n'est pas terminé. Je meurs chaque jour. Donc, on descend sur ce sentier, et ce que je vous traitais l'année dernière, je le reprends, ça me revient à l'instant, le baptême, à travers ces choses-là où nous renonçons à nous-mêmes, où il nous fait mourir à nous-mêmes, c'est le baptême qui progressivement est en train de se réaliser. Vous voyez, il y a des choses qui meurent en nous et d'autres qui naissent, c'est-à-dire la vie de Dieu prend de plus en plus de puissance à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui fait que lorsque la mort physique advient, ce type de personne qui a accepté d'être ainsi, de mourir chaque jour pour laisser la place au Christ, bien, elle ne peut rencontrer que celui dont elle est l'image et la ressemblance. D'où, par exemple, je ne meurs pas, dit Thérèse de l'Enfant Jésus, avant de partir, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, parce que cette vie, je l'ai déjà en moi. Donc, je reprends la situation. La miséricorde, il nous faut l'accueillir. Non pas essayer d'être parfait, nous n'y arrivons pas, mais d'accepter que de descendre en lui, vous rappelez à l'instant de l'abîme de notre misère attire l'abîme de sa miséricorde, et accepter que quand ce choc se fait avec lui, il nous dépouille de tout ce qui est contraire à sa propre vie. Alors on peut refuser la miséricorde. Je vous en parlerai demain, et surtout à partir des dernières apparitions de la Vierge Marie. Je ne vous citerai que ce qui est reconnu par l'Église. Voilà. Donc nous sommes toujours en capacité de refuser le don de Dieu. Soit parce qu'on bâtit sa vie en dehors de Dieu et qu'on veut faire ce qui nous plaît, bon, athéisme construit, soit parce que on se réfugie, je vous dis, dans un tas de pratiques qui sont malgré tout très extérieures, et qui empêche le Seigneur d'agir au plus profond de nous-mêmes. Vous voyez, ce qui nous fait peur, dans le fond, c'est que, nous, n'ayant pas assez confiance en Dieu, nous craignons que si nous nous livrons à lui, eh bien, nous aurons une vie beaucoup plus ratatinée que celle que nous avons. Et ça, c'est une ruse du prince des ténèbres. Au contraire, toute vie qui est donnée à Dieu, il fait mourir ce qui est contraire à lui, mais il le remplace par ce qu'il est lui, et donc nous découvrons une vie, au contraire, de plus en plus large, de plus en plus belle. et nous conduit dans des situations qui peut-être au premier abord ne nous plaisaient pas, et pour finir à travers lesquelles il peut se donner en abondance et nous découvrons, je vous disais, des espaces de vie absolument insoupçonnés. Je vous cite là, dans le manuscrit A, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui justement, c'était une gamine qui était psychologiquement fragile, qui n'avait pas fini, on pourrait dire, suivant certains aspects, sa maturité, et qui n'avait aucun moyen. Et comme elle dit, le Seigneur ne donnerait pas de grands désirs s'il ne pouvait pas... C'est pour les réaliser lui-même, et pas nous-mêmes. Ô Mère chérie, après tant de grâces, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie. Et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. C'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc pourrais-je avoir peur? Quand un homme bâtit sa vie suivant ce qui lui semble bon, il s'enferme dans les limites qu'il a à concevoir. Il peut concevoir de son existence. Je vous le citais les autres années, c'est un peu un des drames de l'athéisme construit. Le monde est ce que je peux en comprendre et rien d'autre. Donc je me refuse, on pourrait dire d'une certaine façon, à toute instruction qui pourrait élargir mes vues sur le monde, sur l'homme. Au contraire, celui qui se livre à Dieu va vers des espaces de vie de plus en plus larges et sans limite. Je pense que l'athéisme construit, parce qu'il y a un athéisme de volerie, il y en a qui se disent athées parce que ça les ennuie un jour d'aller à la messe ou de prier. Ils ont choisi leur ego, il n'y a pas grand chose à faire. Mais même l'athéisme construit, on voit une personne être à la recherche de la vérité, etc., mais elle s'enferme dans ses limites. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la fameuse lettre 197, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui conduit à l'amour. Et donc on a vu chez Élisabeth de la Trinité, c'est l'abîme de notre misère. L'abîme de ma misère n'est pas quelque chose qui doit m'arrêter, mais si j'ai confiance, l'abîme de sa miséricorde est infiniment plus grand que l'abîme de ma misère. Il peut combler toutes les misères et les imperfections et tous les péchés, si on va vers lui. C'est la confiance qui va nous permettre d'être divinisés. Faustine a fait l'expérience elle-même de saint Thomas. Vous savez, Thomas qui, si je ne mets pas ma main dans la plaie de son côté, dans les trous de ses doigts, je ne croirai pas. Et donc Faustine aussi va être mise par le Christ dans cette situation, un peu comme Thomas. Et alors on sait que l'apôtre Thomas, ensuite, que répond Thomas immédiatement après? Il dit pas « Ah ben oui, c'est vrai, t'es ressuscité », il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc il est établi là, dans la confiance, et il reconnaît immédiatement qui est Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc le Seigneur permettra que Faustine aussi, bien qu'elle ait confiance en Dieu, fasse aussi cette expérience. Et ce qui est intéressant, chez Thomas, la tradition dit que entre autres Eusèbe de Césarée, qui reprend un texte d'Origène, que l'apôtre Thomas, pris par ce zèle de Dieu, justement, parce qu'il a compris ce qu'était la miséricorde de Dieu à travers cette expérience de la plaie du côté, il est parti jusqu'en Inde. Donc c'était connu du temps d'Origène, et même l'Inde orientale, donc l'autre côté de l'Inde. Vous voyez, et alors on retrouve ça aussi chez Faustine, parce que cette expérience qu'elle va faire du côté du Christ, et qui va conduire entre autres à la fameuse icône et à l'image que vous a distribuée sœur Lily, ça va amener Faustine, et il va pousser Faustine à devenir apôtre de sa miséricorde.
Et ce que je vous disais, il a demandé expressément qu'il y ait une fête de la miséricorde et qui sera instituée par le pape polonais, par Jean-Paul II. Ô amour éternel, je désire que toutes les âmes que tu as créées le connaissent. Je désirerai devenir prêtre, c'est Faustine. Je parlerai sans cesse de ta miséricorde aux âmes pécheresses plongées dans le désespoir. Je désirerai être missionnaire et porter la lumière de la foi dans les pays sauvages pour te faire connaître des âmes et être immolé pour elles, mourir martyr comme tu es mort pour moi et pour elles. Ô Jésus, je sais parfaitement bien que je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur, que je peux mourir martyr en m'anéantissant totalement et en renonçant complètement à moi-même pour l'amour de toi, Jésus, et pour celui des âmes immortelles. Et donc, ça correspond à ce que lui avait dit Jésus.
Jésus dit à Faustine, « Apôtre de ma miséricorde, proclame mon insondable miséricorde au monde entier. Ne te laisse pas rebuter par les difficultés que tu rencontres en annonçant ma miséricorde. Ma fille, fais que ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est en ton pouvoir, pour étendre la vénération de ma miséricorde. Je supplierai à ce qui te manque. Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix. » Voilà pourquoi elle a fait l'expérience un peu comme aussi Saint Jean, quoi, d'être penché sur la poitrine du Christ. Une chose qui est catastrophique dans l'Église, et on trouve cela dans le livre de l'Apocalypse, c'est la tiédeur. Et vous savez fort bien que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15-16, Dieu vomit les tièdes. Alors qu'est-ce que quelqu'un qui est tiède? Ben, c'est quelqu'un qui, dans le fond, ne croit pas à l'amour. Une personne qui croit à l'amour, ben, ou qui vit l'amour, ça se voit parce que elle est prise complètement par l'objet de son amour. Et si nous découvrions la profondeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu, nous ne serions pas tièdes, mais nous serions enflammés. Ceux qui ont découvert le Christ sont obligatoirement, et qui ont trouvé, ben, c'est absolument incroyable, quoi. Un Dieu qui nous aime, qui nous donne sa propre divinité, qui vient nous chercher, qui prend notre humanité, qui a un cœur qui nous prend avec tous nos péchés. Et la personne qui a découvert ça, ben, c'est extraordinaire, donc on a envie que tout le monde en profite. Donc, a contrario, quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui comprend la chose, mais qui en fait ne s'est jamais offert à Dieu pour découvrir son amour. Et donc, par voie de conséquence, la personne ne peut pas parler de Dieu parce qu'elle ne le connaît pas vraiment. Et donc, elle ne peut pas non plus le communiquer. Alors, ce que disait Cassien aussi, Cassien a rapporté toutes les histoires des pères du désert, et entre autres celle de l'abbé Daniel qui disait à son disciple, « Celui qui se complaisait dans une fausse sécurité de relation à Dieu, se faisant son propre juge et appréciateur, ignorait tout du feu de l'amour divin. Il s'enfermait dans une médiocrité satisfaite, peu propice au changement. » Voilà, et c'est cela que vomit le Seigneur. Et il ne vomit pas la personne qui ne sait pas et qui est froide, parce qu'elle n'a pas rencontré le feu. Et la personne qui a rencontré le feu, et qui essaye de l'étouffer, quoi, pour vivre idiotement, dans un certain confort. Mais c'est absurde, c'est un confort pour ici-bas. Ce qu'il faut, c'est le confort pour la vie éternelle. En nous flattant, dit-il toujours Cassien, de ce renoncement extérieur au monde ou de ce dégagement des vices grossiers, nous nous persuadons faussement d'avoir atteint la plus haute perfection. La perfection, c'est pas à nous de décider C'est comme le gamin qui décide d'avoir la moyenne, tout juste. Oui, on peut retrouver des histoires de potache. Hein. Mais alors, nous avons des comportements un peu identiques, quoi. On va vers Dieu à peu près, quoi. Ouais, c'est bon. Mais, vous voyez, si lui il veut prendre toutes nos misères, en contrepartie, il veut nous donner aussi son feu. Et celui qui se complaît ou qui se juge soi-même en disant, oh, bah, c'est bon, j'en ai assez fait, je n'irai pas plus loin. D'ailleurs, j'ai horreur de la basse musette et de l'accordéon. Et de tous les flonflons par la même occasion. Voilà.
Bon, on va à Vesoul.
Allez, on va aller à Vesoul. On termine le pilier à Vesoul, alors. Un dernier aspect, c'est que Dieu ne peut pas renoncer à son œuvre. Vous avez vu combien il nous aimait, c'est lui qui nous a créés. Hein, une mère ne peut pas supporter que son enfant se perde. Elle fera tout pour le sauver. Et donc lui, il l'a fait. Et comme ce que nous dit le pape, la miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c'est-à-dire qu'il peut bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L'amour miséricordieux chrétien doit être sur la même longueur d'onde, comme le Père aime, ainsi ses enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde, peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. Alors retrouvons-le, et je m'arrête là.